Réagissez et retrouvez toutes les infos, toutes les émissions sur le Facebook de Radio VL, ainsi que sur Twitter.
Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Time is running out.
Too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming. Do you know what I mean?
Bonjour à tous et bienvenue pour ce 22e numéro de Réveil Média sur Radio VL. On est très contents de vous retrouver dans votre émission préférée sur l'actu des médias. Chaque semaine, on se réveille à vos côtés dans la joie et la bonne humeur en vous informant de tout ce qu'il ne fallait pas louper. Et je vais de suite me tourner vers vos chroniqueurs spécialistes des médias qui m'accompagnent. Et je commence avec Marie, comme d'habitude. Marie, t'es la première de ma liste. Comment tu vas ?
Très bien, et toi ?
Ben, ça va super avec toi, Marie. Comme d'habitude, on va parler télé cette semaine. Cette semaine, tu vas plutôt nous faire une petite leçon de géographie selon CNN. Oui. Ah, on verra ce que c'est, ça. TF1 qui vend des matchs du Mondial 2014. The Walking Dead. Oui, t'as vu. Oh là là. Renouvelé Dead pour une cinquième saison. Et le chiffre de la semaine, je te laisse l'annoncer, ça va être cette semaine.
Ça va être, écoute.
Et je dis bonjour à Caro, hello.
Salut Nico.
Caroline, comment ça va?
Ça va et toi?
Ben ça va super avec toi, Caro. On va parler radio et presse, hein.
Ouais, super.
Ouais. Cette semaine, tu vas nous parler d'Europe 1 qui organise un concert de soutien à Didier François, Édouard Elias et aux otages retenus en Syrie, de Lagardère qui a presque trouvé preneur pour Pariscope et première, hein, c'est bien ça. Hein.
C'est ça.
Hein, tes thèmes sont pas mal, hein. C'est genre normalement ils sont. De France Bleu, 19e édition du concert Les Talents France Bleu, Bridget, le nouveau féminin féministe. Et oui, et enfin une petite mise au point que tu vas nous faire cette semaine. Ouh là là, attention.
Mise au point.
Non, peut-être pas. On va. On veut que l'audience.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un problème avec Jackie Coin.
Et Camille, hello, comment ça
hello.
Va?
Ça va et toi?
Eh ben ça va super avec toi. Faut parler web. Hein,
ah
Camille.
Oui. Hein, là.
Cette semaine, tu vas nous parler des réseaux sociaux privés débarquent sur la toile. Et ça
exactement.
C'est très intéressant et on va faire partager cette actu aux auditeurs. Test grandeur nature pour l'introduction en bourse de Twitter et enfin Google qui prépare la production d'une montre intelligente. Ah bah si c'est pas beau.
Gueule,
tout ça.
Hein,
on vit dans un beau monde quand même. Hein. Et Anto, hello.
Salut Nico.
Comment ça va?
En pleine forme.
Ah oui, t'as l'air.
Je suis retrouvé par rapport à la semaine dernière.
Ah bon, d'accord. Ça y est, t'es
voilà. Au taquet.
Voilà, avec toi, Anto, on va faire un bilan média de la semaine. Cette semaine, un coup de cœur. C'est Michel Drucker qui reçoit une anonyme sur le canapé rouge de Vivement Dimanche.
Exactement.
C'est vraiment sympa. Et ouais. Un coup de gueule, et je soutiens ton coup de gueule cette semaine sur la solitude de Pierre Tchernia, abandonné de tous dans une maison de retraite. Et ça, on fera une mise au point. Et voilà. Et on reçoit une invitée, et une très belle invitée encore. C'est Éléonore Bocara, hello.
Bonjour tout le monde.
Alors, comment ça va?
Mais très bien, je suis ravie d'être là. Et puis l'équipe a l'air très sympa. Donc,
c'est formidable. On va passer de suite, puisque il y a la première séquence dans cette émission, c'est l'interview.
Réveil Média, l'interview.
Et on va reparcourir la biographie de notre invitée du jour, Éléonore Bocara.
C'est dur de faire une biographie quand même, j'ai que 27 ans.
Eh ben oui, mais déjà bien remplie, hein, puisqu'après avoir choisi de faire du droit, tu as peu à peu réalisé ta passion, que ta passion n'était pas de devenir avocate, ou là j'ai du mal ce matin,
ouais,
mais de faire partie du monde
beaucoup.
Des médias. C'est pour cette raison que tu as très vite pris la décision de te réorienter et de tenter une maîtrise en journalisme et communication. En 2010, tu as même rejoint l'équipe de Jean-Marc Morandini sur Direct. Cette année, tu as voulu varier les plaisirs, hein, en rejoignant le monde de la radio. Tu as présenté l'Afterwork, un talk show People sur Hot Mix Radio avec Pascal Selem. Aujourd'hui, on te retrouve à la présentation de la météo sur iTélé le week-end, également à 13h50 en semaine à la présentation du Keno sur France 3, et ça depuis 2009, hein, c'est bien ça. Tu co-animes le magazine de nutrition L'équilibre est dans l'assiette sur MCS Bien-être aux côtés de Jean-Michel Cohen, et tu es également experte en mode et beauté sur le site thetops.fr, hein, donc t'aimes bien varier les activités, hein.
Ben oui, écoute, je crois que j'ai toujours eu peur de m'ennuyer dans ma vie.
Ah, oui.
Du coup j'ai multiplié les expériences, mais là tout est dit du coup, c'est ça.
Eh ben Éléonore, on va écouter justement ton premier bulletin météo sur iTélé, et c'était le 21 septembre dernier.
Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'été, mais le soleil a fait son grand retour. Alors demain matin, mis à part cette zone sur les côtes de la Manche qui sera sous les nuages et le brouillard, eh bien le reste du pays prendra un grand bain de soleil. Côté température, nous aurons 13 degrés à Paris et une maximale de 18 degrés pour Nice. Demain après-midi, seule une petite zone nuageuse échappera à nouveau au nord, au grand beau temps qui règne dans tout le pays. Les températures seront extrêmement agréables, entre 21 et 28 degrés. Alors surtout, profitez bien de ce temps magnifique qui va perdurer encore quelques jours.
Bon, ce qui était bien, c'est qu'il y avait du soleil ce jour-là. Et
juste, ça tombait bien.
Ça tombait bien. Hein,
c'était un bon
c'est
jour.
Toujours plus facile de commencer quand il fait beau. Si tu
exactement.
Veux, on a eu une tempête il y a quelques jours, ça aurait été un peu dur de commencer
eh ben
par
oui,
ça.
Mais qu'est-ce que tu as ressenti à la présentation de ton premier bulletin météo? Du stress, de l'excitation, du bonheur, la peur de ne pas être à la hauteur peut-être? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là?
Eh ben écoute, en toute honnêteté, forcément un petit peu de stress parce que comme toute nouvelle expérience, c'est vraiment une activité différente. Moi, j'avais jamais fait de météo avant.
Oui.
Donc voilà, j'ai pas eu de training particulier, j'ai pas eu quoi que ce soit, donc j'avais quand même une certaine pression. Maintenant, j'ai eu donc un peu de stress au début, mais beaucoup de plaisir au moment de le faire. Quoi. Il y a une vraie adrénaline du direct que j'adore.
Mais présenter la météo, c'est quelque chose dont tu rêvais depuis longtemps ou finalement, tu as découvert ce domaine petit à petit? Comment elle s'est passée cette transition? C'est au hasard d'une proposition finalement?
Écoute, oui, ça s'est fait assez vite en fin de compte. Ils avaient besoin de quelqu'un assez rapidement pour la chaîne. J'ai fait un petit essai pour voir si ça pouvait coller, si j'étais en mesure de...
La chance d'avoir du soleil le premier jour.
Voilà, c'est ça. Donc j'ai saisi la chance du débutant en météo et ça s'est très très bien passé. Alors c'était pas forcément un rêve au départ. Je m'étais pas dit, tiens, dans la vie je veux être animatrice météo.
Il y en a certains qui sont passionnés de météorologie.
Et qui...
Il est 8h les gars. Il est
8h06. Ça excuse tout. Non, voilà, j'étais pas passionnée de météorologie au départ. Maintenant, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, je peux m'intéresser à tout un tas de choses, même si j'y avais pas forcément pensé au départ. Ce qui m'a plu, c'était le challenge. C'est-à-dire
le challenge, de faire quelque chose de nouveau.
C'est ça. Moi, j'ai peur de m'ennuyer, comme je le disais. Et puis, je suis journaliste avant tout. Donc, moi, mon métier, c'est de faire passer...
C'est un métier adaptable.
...une information,
voilà.
Quelle qu'elle soit, de manière intelligible et plaisante et voilà, et d'arriver à faire en sorte que les téléspectateurs comprennent ce que je suis en train de dire et la météo, ça déjà j'en avais un petit peu conscience quand je suis arrivée, mais je m'en rends compte de plus en plus depuis voilà un mois et demi où je suis sur iTélé, c'est que ça a une vraie importance. Ça touche tout le monde, la
ça
météo.
Touche tout le monde,
c'est vraiment de la petite nana qui veut savoir si son brushing il va tenir parce qu'elle fait son brush le matin, qui veut savoir si le temps sera humide ou pas,
qui s'en visait ici dans cette équipe?
Pas du tout.
et en même temps, voilà, il y a quelques jours, on a eu une vraie tempête sur le nord-ouest de la France et c'était très important.
Bah oui.
Dire, voilà, il peut y avoir des dégâts, il peut y avoir des morts, il peut y avoir voilà, des choses très importantes. Donc j'ai pris conscience de l'importance de la météo.
Voilà, la responsabilité de la météo. Mais pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer finalement comment se prépare un bulletin météo?
Alors écoute, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les chaînes, mais moi en l'occurrence, je suis vraiment journaliste présentatrice de la météo. Donc c'est moi qui concocte la météo,
voilà.
En amont.
À France 3, ils le font de cette sorte aussi.
Voilà, ouais. c'est le cas aussi sur France Télévisions. Moi j'arrive, si tu veux, j'ai une prise d'antenne vers 7h du matin. J'arrive à 5h à peu près. J'ai donc des cartes qui viennent de Météo France, qui sont un peu remasterisées par notre logiciel interne. J'appelle les gens de Météo France que j'ai en ligne directement et à ce moment-là on débriefe un petit peu ensemble
voilà, la météo du jour,
les prévisions. Je fais plusieurs mises à jour au cours de la matinée histoire de voilà de vraiment être sûr de l'information que je délivre et à ce moment-là je dois vraiment réaliser la météo moi-même, je l'écris. Alors sur iTélé on est en direct et sans prompteur. Donc voilà, je regarde et je vois ce qui se passe et surtout l'important c'est vraiment d'être mis à jour en temps réel.
Oui. Et il y a également le Kéno sur France 3 hein, depuis 2009.
C'est une petite fierté parce que je me dis que je distribue des millions d'euros aux gens.
Voilà, quelle a été ta première motivation quand on t'a proposé ce poste du Kéno?
L'argent.
Le rêve de gagner.
Non mais pourquoi pas l'argent, mais dans le fait de le faire gagner aux gens. C'est-à-dire qu'il y a un vrai plaisir. Moi, quand je fais mon métier depuis le départ, je pense aux téléspectateurs qui sont derrière leur écran pendant que j'anime.
Avec leur petit papier, ils sont...
Ah, non, mais...
que ce
Uber,
soit...
j'ai encore perdu.
Ah, dis donc, on t'y voit complètement, Nico. Non, une facette de ta vie pas hyper reluisante.
Passionnante.
Passionnante, c'est vrai.
Que ce soit le kéno ou pas, je m'efforce vraiment de penser aux personnes qui sont derrière leur écran au moment où j'anime. Et quand on m'a proposé de faire le kéno, je me suis dit, mais c'est fantastique parce qu'il y a plein de gens avec leur bulletin qui sont devant l'écran en train de regarder. Et il y a sans doute un gagnant parce que donc, moi, voilà, je sais quel,
sont qu'il y a quelqu'un. De...
Voilà, le taux des gagnants, nous on sait qui gagne. Ça dépend des versions de l'émission, mais parfois quand on a le temps, on peut féliciter particulièrement quelqu'un qui a gagné une très grosse somme. Donc je sais. Donc il y a des gagnants.
Et on se dit, il a de la chance quand même. Hein.
C'est ça. Je me dis, il y a quelqu'un pendant que je suis en train de faire l'émission qui est en train de regarder son petit bulletin et qui se dit waouh,
wow, c'est
train
moi.
De changer,
c'est vrai que c'est formidable quand on le voit de cette facette.
Ouais,
c'est incroyable.
C'est magique quoi. C'est.
Également sur une autre chaîne, sur beaucoup de chaînes, Éléonore, MCS Bien-être, où tu co-animes avec Jean-Michel Cohen l'émission L'équilibre est dans l'assiette. Alors, le monde de la cuisine, ça te passionne depuis longtemps ?
Je vais être honnête, je ne suis pas forcément une grande cuisinière.
D'accord.
Comme tu le vois avec mon planning, je suis une femme plutôt occupée. Donc j'avoue que je ne passe pas forcément des heures en cuisine. Mais ça fait partie tellement des plaisirs de la vie. Et pour le coup, c'est un peu comme la météo, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde.
Voilà.
Et c'est ça que je trouve magique, quoi. C'est...
Ce que t'aimes finalement, c'est faire transmettre des informations aux gens, que ce soit dans un domaine du kéno ou de la cuisine ou de la météo.
C'est exactement ça. Quand t'es journaliste, t'es là, ce que je disais tout à l'heure, t'es là pour véhiculer une information. Et il faut que ça concerne les gens, faut qu'ils la comprennent, faut qu'ils prennent, si possible, du plaisir à l'entendre.
Exactement.
Donc après, quel que soit le support, quoi.
Exactement.
Et puis, franchement, la bouffe, j'adore ça.
Et reparlons justement de cette émission en particulier. Qu'est-ce qui démarque cette émission des autres programmes de cuisine déjà présentes à la télé ? Parce qu'il y en a pas mal d'émissions de cuisine. Qu'est-ce qui la démarque des autres ?
Alors, écoute, on a beaucoup d'émissions de cuisine effectivement en télévision, mais on est souvent axé sur le côté gastronomique pur. Savoir comment je vais préparer mon
plat. Que là, c'est l'équilibre du plat qui est mis
c'est
en avant.
Ça. Et là, ce qu'on montre, c'est qu'on peut à la fois marier le côté santé, le côté vraiment équilibre, se faire du bien, et savoir comment se faire du bien, parce que tout le monde a envie de nos jours de prendre soin de soi, mais on ne sait pas toujours exactement comment faire. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on a à la fois le côté gastronomique, comment se faire plaisir en mangeant, mais en même temps en faisant du bien à son corps.
Et prochainement, en plus, une autre émission qui va s'appeler L'équilibre est dans l'assiette chez vous, sur la même chaîne. Qu'est-ce qui va la différencier de l'autre émission ? Ou alors c'est la même ?
Alors en fait, c'est un spin-off.
D'accord.
Je ne sais pas si tout le monde sait, les auditeurs, ce qu'est un spin-off.
Je veux bien que tu l'expliques pour les auditeurs.
C'est une émission dérivée, un petit peu.
D'accord.
La première, donc là on est sur une émission hebdomadaire où pendant 26 minutes eh bien, on a une thématique à chaque fois pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu sympathique, d'un peu vivant. Alors on peut avoir une spéciale sur un aliment en particulier ou bientôt là on aura sur les repas de fête. Là par exemple avec Halloween, on a fait quelque chose sur les citrouilles et surtout les cucurbitacées. Donc on essaye de coller autant que possible à l'actualité gastronomique et nutritionnelle. mais voilà, donc dans l'idée sur ce 26 minutes là, nous on a des reportages, des décryptages.
D'accord.
Voilà, et l'idée...
Quelque chose d'encore plus poussé finalement.
C'est ça, en fait, pas forcément plus poussé, mais disons plus précis, puisque ce sera l'équilibre dans l'assiette chez vous. Et une fois par mois, je vais me rendre chez une famille.
D'accord.
Directement, on va aller voir
les gens.
C'est pour
ça que ça s'appelle en plus dans l'assiette chez vous.
Exactement.
C'est bien le chez vous qui diffère tout.
C'est ça. Je vais me rendre donc dans une famille qui rencontre certains problèmes au niveau de la nutrition. Alors ça peut être quoi ? Ça peut être quelqu'un qui est au régime et pas le reste de la famille, quelqu'un qui est sportif, ou alors certaines familles qui n'ont pas réussi à instaurer un vrai moment pour les repas, ou des familles recomposées qui doivent réorganiser leur système nutritionnel en quelque sorte. Et donc je vais aller parler avec eux, voilà, pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, où est-ce qu'ils rencontrent des difficultés, filmer les placards, filmer le frigo, essayer de cerner un petit peu la problématique qu'ils rencontrent. C'est
vous avez des tomates pourries dans le frigo, là.
C'est intime, le frigo des gens. Hein.
Et après, tu apportes des solutions.
Ça représente la personnalité.
Tu apportes des solutions aux gens, c'est ça ?
Alors,
ou tu proposes des choses ?
Disons que moi, je reste dans ma position. Je ne suis pas experte en nutrition. Je vais laisser cette mission à Jean-Michel Cohen, qui, pour le coup, a fait ses preuves en la matière.
Exactement.
Et en fonction, en fait, des images que je vais pouvoir apporter, à la fois des témoignages et des fournitures des gens dans leur leur placard, leur frigo. Je vais ramener tout ça à Jean-Michel Cohen et lui pourra, en fonction, donner des indications et des conseils. Et on retrouvera la famille qui sera venue en plateau et il va pouvoir leur prodiguer ses conseils.
Eh ben merci beaucoup, Éléonore, en tout cas. Alors, petite question.
Qu'est-ce que vous avez dans vos frigos?
Ah,
du Nutella.
Dans le frigo, c'est pas utile. Dans
des steaks, je sais pas, des tomates, des fruits.
La salade.
Jambon, enfin.
Pour connaître. La salade fenouil, c'est pas forcément commun.
Non, ouais.
C'est pas forcément hyper bon ligne, peut-être.
C'est super en tout cas. Éléonore, tu restes avec nous, mais on va passer de suite à la chronique télé avec Marie. Alors avec toi Marie, on va commencer avec cette petite leçon de géographie selon CNN.
Oui, tout à fait, donc tout le monde connaît la chaîne américaine CNN et pour cause, elle fait quand même partie des chaînes d'information en continu les plus regardées au monde. Mais elle est aussi réputée pour ses approximations géographiques les plus surprenantes. Et ce sens bien particulier, bien à eux de la géographie, remonte déjà à quelques temps. Donc déjà en 2009, lors d'un sujet sur l'Ukraine et la Russie, la chaîne avait situé l'Ukraine à l'est de la Chine.
D'accord, pourquoi
le monde, hein.
Voir ça de cette façon.
Voilà, donc ensuite, lors d'un reportage sur le tourisme sexuel au Cambodge, cette fois, une carte apparaissait à l'écran situant le Cambodge en Afrique. Bon, encore une erreur qui malheureusement n'a pas pu passer inaperçue.
Pas être trop méchant, les Français sont plutôt mauvais en géographie. Donc.
C'est vrai.
Je crois que les Américains nous battent.
Les Américains, ouais, ils ont l'air d'être pas mal.
Voilà, donc ce n'est pas tout. Donc il y a eu aussi un duplex avec le joueur portugais Nino Maré concernant son club de Nicosie. Donc la Nicosie étant la capitale de Chypre, c'est ouf. CNN a recommencé son délire
les
géographique.
Les autres n'ont pas réagi, je sais pas si
en
ça.
Plaçant cette fois la ville sur la carte de la Sicile.
Vas-y Marie.
Pardon, idem pour le G20 en 2011, donc CNN a récidivé. La chaîne avait situé Cannes dans le nord de l'Espagne entre les provinces des Asturies et celle de Lugo.
C'est pas mal ça.
Londres quant à elle a été déplacée de 200 km sur la carte, à croire que cette fois-ci ils ont fait un effort parce qu'à 200 km près on y était presque. Donc voilà, dernière bourde en date, donc c'est lors du journal du 7 octobre dernier, en évoquant le cas des frelons de Chine, la chaîne a situé Hong Kong à la hauteur du Brésil sur la carte du monde. Voilà, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que font les journalistes de la rédaction, mais on ne dira jamais assez, la drogue, c'est pas bien.
Eh ben oui. On va continuer, Marie.
C'est pas terminé.
Ah, c'est pas terminé, Marie.
Donc figurez-vous que ce sont pas les seuls à avoir séché un peu le cours de géo à l'école, parce que notre Jean-Pierre Pernaut national a lui aussi commis une petite erreur dans son unité de 13h le 8 octobre. Voilà, c'était au cours de la séquence sport, et en présentant le match du PSG, Jean-Pierre a situé la ville belge Anderlecht aux Pays-Bas. Bon, d'accord, ça peut arriver à tout le monde.
Non, mais c'est Jean-Pierre Pernaut, en plus,
c'est Jean-Pierre
Pernaut.
Droit. Bon, c'est pour ça, il a le droit. Donc CNN, de toute façon, a battu tous les records. On continue, donc on parle de foot,
Et TF1 qui vend des matchs du Mondial 2014.
Donc la chaîne chercherait en effet à vendre 36 matchs des 64 matchs achetés, donc soit les matchs des 4 huitièmes et des 2 quarts de finale.
J'étais contaminée, Marie.
C'est ça, je crois que c'est communicatif. Donc l'offre comprend également la rediffusion des matchs ainsi que la diffusion d'un magazine spécial mondial si celui-ci ne fait pas de concurrence directe avec celui proposé par TF1 évidemment. Donc TF1 conserverait l'exclusivité sur les matchs de l'équipe de France car les droits de diffusion du groupe ont leur prix quand même, c'est un prix plutôt élevé, c'est quand même 130 millions d'euros qu'a déboursé TF1 pour ses matchs. Et déjà en 2010, TF1 avait vendu comme ça aussi après avoir acheté des matchs 37 matchs pour 33 millions d'euros. La stratégie du PDG non Spalletti semble aujourd'hui être la même. Voilà, le 30 septembre dernier, il a déclaré avec humour, nous allons étudier attentivement les droits TV de l'équipe de France de football, mais ce n'est pas la priorité absolue. Le seul soir où TF1 gagne de l'argent avec l'équipe de France, c'est quand c'est M6 qui le diffuse. C'est l'enjeu d'image qui prime devant le reste, car pour que l'opération soit réellement rentable, il va falloir que les audiences suivent. Et c'est pourtant le pari que semble avoir pris TF1, car les publicitaires devront débourser la modique somme de 160 000 euros pour 30 secondes de pub avant les coups d'envoi des matchs des Bleus face à l'Ukraine le 15 et 19 novembre prochain. Donc voilà, c'est des informations selon stratégie.fr, ce serait l'espace publicitaire le plus cher de l'année pour la Une.
Et je te laisse annoncer troisième thème.
En route pour la cinquième saison.
La cinquième saison.
Si vous n'avez jamais entendu parler de la série The Walking Dead, c'est que soit vous ne vivez pas sur cette planète, soit que vous n'avez ni internet ni la télé, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui. Donc The Walking Dead, c'est la série d'horreur adaptée de la bande dessinée éponyme dont tout le monde parle et qui a fait frissonner l'Amérique. Donc la saison 4 a démarré le 13 octobre. perdre, ouh, décidément, le dernier aux États-Unis et a été suivi par 20 millions de téléspectateurs. Donc voilà, c'est aussi en moyenne sur tous les épisodes plus de 14 millions d'amateurs de zombies.
On entend le générique en fond en plus.
Car dans voilà, The Walking Dead, le plus dur est de survivre et d'échapper aux zombies. Voilà.
J'ai fait mon dernier Halloween déguisé, on s'est reconstitué une petite scène de Walking Dead.
Bah voilà, tu vois, ça inspire et tout le monde. Donc la série est d'ailleurs aussi connue pour son nombre de morts assez impressionnant, j'en avais parlé, si tu te souviens.
Oui, je me rappelle.
Ici, c'est environ 38 morts par épisode.
Eh ben.
Donc, c'est assez énorme. Donc voilà, face à ce record historique d'audience, donc suivi par les 18-49 ans dans l'ensemble de la population américaine, et ben pas étonnant que la chaîne AMC renouvelle la série pour un cinquième volet. Donc on ne sait pas combien d'épisodes il y aura. On sait que ça va débuter en 2014, qu'il y aura des nouveaux invités, des nouveaux personnages. Forcément, il faut bien remplacer tous les morts et une pluie de zombies toujours aussi forte. Voilà. Donc en France, les épisodes de The Walking Dead seront diffusés 24 heures après leur diffusion sur OSS Choc. Donc avis aux amateurs du genre.
Et on va terminer avec le fameux chiffre de la semaine.
Oui,
Marie.
Donc c'est 1,12 million. Donc c'est le nombre de téléspectateurs à avoir suivi Touche pas à mon poste lundi dernier. Voilà, lors de cette émission, Cyril Hanouna recevait Sinclair, Philippe Lelouch, Danny Briand et Vincent Nilko et a réalisé un score de 10,9% de part d'audience auprès des 25-49 ans et de 10,3% auprès de la fameuse ménagère. Donc de très beaux scores.
Ce sont mes voisins.
Ah oui.
Puisqu'on appartient tous au groupe Canal+. Et que,
ah bah oui, iTélé, bien sûr. Je croyais les voisins sur la porte du palier, moi. On se retrouve tout de suite. On va écouter Capital City, Safe and Sound. À tout de suite.
Radio VL.
Reviens juste après ça.
Juste après ça. You could be my luck, even.
êtes toujours dans Réveil Média, il est 8h24, on est toujours avec Camille, Caroline, Anthony, Marie et notre invitée Éléonore Bocara.
Réagissez et retrouvez toutes les infos, toutes les émissions sur le Facebook de Radio VL, ainsi que sur Twitter.
Bonjour Éléonore.
Bonjour.
On va passer de suite à une des grandes séquences de cette émission. Attention, c'est le je m'en fous pas.
Réveil Média, le je m'en fous pas.
Je rappelle le concept, parmi les thèmes que je vais vous citer, nous allons faire un tour de table et vous allez me dire je m'en fous ou je m'en fous pas, expliquer pourquoi on commence avec ce premier thème. C'est France 2, Laurent Ruquier en access dès janvier. Thierry Tulier, le nouveau directeur des programmes de France 2, travaille sur une refonte totale de l'access prime time de la chaîne publique, au plus bas depuis l'arrivée de Jusqu'ici tout va bien à la rentrée. Dès janvier, France 2 confiera son access prime time à Laurent Ruquier. Si pour l'heure le contenu du nouveau rendez-vous quotidien n'a pas été dévoilé, l'animateur du talk show On n'est pas couché sera aux commandes de la tranche 18h45-19h45. Alors Marie,
bah écoute, moi je m'en fous très égoïstement parce que je ne suis pas chez moi à cette heure-ci en général, donc je ne regarde pas les access prime time.
Ouais,
voilà.
Mais que ce soit Laurent Ruquier, ça a relevé la barre de l'audience ou pas?
Oui, bah, je pense qu'il sait, voilà, il sait faire ce qu'il fera, ce qu'il sait faire, et ouais. Je fais confiance à Laurent Ruquier.
Et Éléonore, alors cet avis?
Bah écoute, je m'en fous pas du tout.
Ouais. Hein.
Déjà, c'est un peu mon métier, mon milieu professionnel, donc ça m'intéresse par essence. Maintenant, le fait que ce soit Laurent Ruquier, je trouve que c'est personnellement une très bonne chose.
C'est une bonne chose. C'est très bonnes audiences avec On n'est pas couché, donc peut-être
c'est ça,
que.
Mais même sans parler d'audience, on peut pas dire que ce soit pas intéressant parce qu'on est tous quelque part un peu conditionnés par l'audience en télévision. Néanmoins, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose.
Il a quelque chose. La petite touche personnelle.
C'est quelqu'un que je respecte beaucoup.
Et toi, Anthony?
Bah, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour France 2 parce que de toute façon les audiences peuvent pas être pires que maintenant.
Ah bah ça c'est sûr, elles sont au plus bas. Et toi Camille?
Ah, je m'en fous pas du tout parce que j'aime beaucoup justement Laurent Ruquier.
Le personnage,
ah, j'aime beaucoup.
La façon de travailler.
Entre son émission en fait sur Europe 1 et plus, voilà, On n'est pas couché, moi c'est vraiment quelqu'un.
Ta tasse de thé.
Voilà, c'est
le dire
ça,
le
exactement.
Matin, hein.
Voilà, c'est le matin, c'est ma tasse de thé. Voilà.
Et toi, Caroline?
Bah, je m'en fous pas, il fait des bonnes émissions et voilà, je vais pas répéter ce que les autres ont dit.
Bon, tout le monde est d'accord,
minimum,
on s'en fout pas donc du retour de Laurent Ruquier en Access Prime Time. Ouais, mais la majorité, c'est le suffrage universel ici, Marie. On passe de suite au deuxième thème de la semaine. C'est YouTube qui se lance dans l'écoute de musique en ligne par abonnement. Et oui, le service pourrait être lancé l'année prochaine. Les utilisateurs de YouTube pourraient toujours accéder gratuitement au vaste catalogue de musique et de vidéos musicales du site, mais ils auront l'option de payer pour un service premium sans publicité. Ça, ce serait pas mal si c'était gratuit. Cela offrirait en outre des extras, comme la possibilité de stocker les morceaux pour pouvoir les écouter sans être connecté à Internet. Éléonore.
Alors, bah, je m'en fous pas du tout. Après, sur de l'actu média, je pense qu'il y a peu de choses dont je risque de me foutre.
Ouais.
Mais je m'en fous pas.
Tu trouves bien, justement, que YouTube lance ce service payant pour ne pas avoir de publicité finalement?
Bah écoute, j'attends de voir ce qui va se passer réellement. Maintenant, l'accès à la musique, je trouve que c'est quelque chose de très important. J'ai pas mal d'amis musiciens. Il faut voir dans quelle mesure ça impacte ou
oui,
pas
oui.
Les droits qu'ils touchent eux.
Exactement. Et toi, Caro, tu t'en fous ou pas? Caroline.
Non, mais parce que, en fait, c'est où il y a de la pub, on est obligé de payer.
C'est
comme sur Deezer. Et à chaque fois qu'on veut regarder une vidéo sur YouTube,
c'est chiant.
Mais en fait, je trouve
ils ont trouvé le moyen d'attendrir l'utilisateur.
Non, le moyen d'attendrir, comme d'habitude, faut payer pour tout. C'est que ceux qui ont du fric qui pourront payer. Moi, sérieux, je payerai pas pour ça. Je préfère à la limite acheter un album, tu vois, et voilà.
Ouais.
Ça m'énerve qu'on doive payer.
Et toi, Camille?
Bah moi, je m'en fous parce que je pense qu'on s'y est habitué au final, même si c'est très énervant toutes les publicités, etc. Mais on s'y est habitué. Et puis,
on a une vie très occupée, on a le temps d'attendre.
Non, mais même il y a déjà des listes de lecture entre guillemets ou l'historique des recherches, donc voilà.
Et toi, Anto?
Bah écoute, je m'en fous pas et je trouve ça juste scandaleux de faire payer les gens juste pour pas avoir de pub et tout. C'est vraiment ridicule.
Non, mais en fait, tu payes d'une façon ou d'une autre, quoi. Ouais. Ou par la pub ou avec ton fric.
Exactement.
Mais ça dépend. Est-ce que l'argent qui va être versé, est-ce qu'il revient d'une manière ou d'une autre en termes de droits
aux artistes? Je sais pas,
voilà. C'est ça la question.
Aussi,
quoi.
Comment
non, c'est pour YouTube.
YouTube.
Non, c'est pour YouTube.
Ah, si c'est pour eux, c'est un peu différent.
C'est abusif. Ouais, non, moi je m'en fous pas non plus, et justement c'est la question que je me pose aussi, c'est qu'est-ce qu'est cette offre premium, qu'est-ce qu'elle offre de plus à part la pub, parce qu'il faut juste payer pour pas avoir de pub, là c'est un peu, ils ont mis de la pub pour un, voilà, c'est un peu
pour
le serpent qui se mord la queue.
On va passer de suite au troisième thème de la semaine, c'est Claire Chazal qui va voir sa biographie. La vie de Claire Chazal est en un livre, et oui, selon la lettre de l'audiovisuel, la journaliste économique Marie Bernard prépare actuellement une biographie de la présentatrice des journaux du week-end de TF1. Le magazine précise que cette biographie ne sera pas à charge contre Claire Chazal, au contraire, son auteur souhaite montrer les raisons de la longévité de l'animatrice présente depuis 91 quand même à la tête du JT de la Une, Éléonore.
Je vais dire que je m'en fous un peu parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est une autobiographie par Claire Chazal. Je pense qu'elle a plein de choses à raconter.
Plus fait ses anecdotes à elle que quelqu'un qui le fasse.
Ça m'intéresserait, mais pour le coup, une biographie faite par quelqu'un d'autre, je m'en fous.
Et toi, Camille?
Pour le coup, je suis assez d'accord sur le fait que ça serait mieux que ce soit une autobiographie vu que.
Ce serait plus marrant, oui, les petits trucs croustillants de Claire Chazal.
Oui, elle a une carrière impressionnante quand même.
Et toi, Marie?
Moi, je m'en fous pas parce que voilà, sa carrière est très intéressante, je trouve. Donc, je pense que ça va être un livre intéressant. Est-ce que je vais aller l'acheter? C'est pas forcément le cas. Mais voilà, 22 ans de JT, une vraie belle carrière. Et tu disais que voilà, c'est pas une autobiographie, mais je pense que Claire Chazal a quand même bien participé à tout ce qui peut être écrit dedans. Donc, ça quand même très personnel.
Les biographies sont pas toujours faites en accord.
Non, mais là, je pense qu'à mon avis, elle a un vrai droit de regard sur ce qui.
Et toi, Caro?
Attends, c'était quoi déjà le thème? Non, je m'en fous, j'en ai un peu marre des gens qui racontent leur vie. Si elles parlent de.
Non, justement, c'est la journaliste qui va.
Tout ça, mais souvent ça dévie sur. Ouais, je raconte ma vie.
Non, là justement, c'est pas une autobiographie.
Oui, mais je m'en fous. N'essaye pas de. Tu vois.
Et toi, Anto?
Non, je m'en fous parce que tout simplement, son livre ne va pas changer ma vie, puis il va rien m'apporter de spécial, etc. Et c'est vrai qu'une autobiographie aurait été un peu plus.
Un peu mieux. Et on va passer de suite à une chronique de voix, une chronique de presse et la radio et la presse avec Caro. Alors Caro, on va commencer avec Europe 1 qui organise un concert de soutien à Didier François, Edouard Elias et aux otages retenus en Syrie.
Ouais, ce sera le mercredi 6 novembre aux Folies Bergères. Ce sera présenté par Wendy Bouchard et Nikos.
Ah, Wendy, ouais.
Ouais, et Nikos Aliagas. Ouais.
J'adore Nikos, moi.
Ah, moi aussi.
Moi, j'adore Wendy. Voilà.
Sera diffusé en direct sur Europe 1 à 21h. Il y aura la Grande Sophie, Louis Chédid, Raphaël, Véronique Sanson, plein d'autres gens.
Tous les tubes et... jeunes, quoi.
Hein?
Tous du les lourd. Tubes jeunes, ah du lourd.
Moi, il y aura aussi Bruel et tout. T'es pas obligé d'y aller, tu sais. Mais voilà. Et je rappelle donc qu'ils sont otages depuis le 6 juin.
Ah ouais, ça c'est bien de faire un événement en leur honneur.
Si tu veux.
Voilà. D'accord. On continue.
Vas-y.
Ça fait un peu, ils sont morts, tu vois. Donc,
enfin, leur honneur.
En hommage, c'est pire.
On continue avec Lagardère, a presque trouvé preneur pour Pariscope et Première.
Oui, presque. Alors, ce serait le producteur de ciné Alain Kruger et le banquier d'affaires Grégoire Chercoc. Ouais, Grégoire, quoi. mais pas le chanteur, hein, mais voilà. Donc, qui serait. En fait, ils sont en pourparlers pour la reprise des versions papier.
Ouais.
Ils ont un mois pour finaliser.
Bien,
oui, c'est bien. Ils ont un mois pour. J'aime bien quand tu ponctues comme ça.
Ouais.
Ils ont un mois pour finaliser les conditions de
encore.
L'accord. Et quoi?
Non, vas-y.
J'aime bien quand tu ponctues.
Voilà. Allez, vas-y.
Et je rappelle qu'il y a une pétition qui circule en ce moment sur Internet, justement pour sauver Pariscope. Peut-être que ce sera fait.
Et oui, on continue.
Et oui.
Caro, avec France Bleu, 19e édition du concert Les Talents France Bleu.
Oui, alors en fait, c'est y a un concert le 28 novembre au Dôme de Marseille. Et à l'issue de ce concert, il y a deux prix qui sont remis. Le prix du talent France Bleu qui distingue un artiste de la scène française et le talent découverte France Bleu qui distingue un artiste révélé par la station. L'année dernière, c'était Benabar et Irma qui ont eu les prix. Alors, je sais pas du tout qui est Irma, mais si vous le savez, c'est bien.
Non, c'est génial. J'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à aller écouter ce qu'elle fait, c'est incroyable.
Voilà, génial.
Et en concert, il y aura Zaz, Emmanuel Moire, Florent Pagny, enfin un petit peu plus que vous écoutez de jeunes.
Ouais.
Vous, les jeunes, dans le vent. J'adore Emmanuel Moire. Voilà.
On continue, Caro, avec Bridget, le nouveau féminin féministe.
Oui, alors, le numéro 2 est en kiosque. C'est la pitch line, c'est parce que le féminisme n'est pas un gros mot.
Ah oui.
Alors, il y a eu un énorme débat sur la toile. C'est dans la lignée de Cosette, du magazine Cosette.
Oui, j'ai entendu.
Ils sont accusés de plagiat. Bon, je l'ai lu.
Voilà, donc tu vas nous donner ton avis.
C'est le même prix, le même format, la même maquette, les mêmes sujets. C'est un peu une pâle copie de Cosette.
Vous pouvez l'acheter pour vous faire une idée, mais si vous avez, je sais pas, 4,50 à dépenser, achetez plutôt Cosette.
Mais c'est vraiment féministe, tu le sens dans la ligne éditoriale quand tu le lis ou...
Ouais, un petit peu. Un petit peu, t'as des articles, par exemple, enfin surtout dans Cosette, sur les fémines. Là, il y a eu, dans celui de ce mois-ci, dans Cosette, il y a une interview sur Régine Deforge, qui est vraiment hyper intéressante. C'est une femme qui a eu un parcours de vie vraiment génial, donc lisez-le, c'est vraiment bien.
Mais féministe sympa, alors.
Ouais, pas féministe, pas chienne de garde, quoi. Ouais, non, d'accord. Sympa et drôle. Okay.
Bon. Je regarderai.
Pourquoi ça te fait rire, le féminisme sympa?
Je me sentais un peu exclu.
Je sais pas.
C'est ça.
Oui, tout d'un coup, je me sentais un peu exclu.
Non, mais il y a parfois des féministes un peu hargneuses, on va dire.
Non, là, c'est sympa, voilà. c'est drôle, c'est bien.
Caro, on va terminer avec une petite mise au point.
Oui, alors, je voudrais parler de l'affaire Karine Lemarchand, Lilian Thuram, parce que Le Point publie les procès-verbaux, tout le monde en parle, il y en a marre, foutez-les en la paix, voilà.
C'est la vie privée, ça.
C'est la vie privée, on ne saura jamais la vérité. Je voudrais juste rappeler qu'en France, une femme sur quatre affirme avoir été victime de violences conjugales. Voilà, seulement 8% des victimes déposeraient plainte. Et pour les Européennes entre 16 et 44 ans, les brutalités au foyer sont la première cause de mortalité avant les accidents de la route et le cancer. Donc voilà, foutez-leur la paix, on s'en fout.
Eh ben merci beaucoup Caro, en tout cas on va se retrouver tout de suite. Il est 8h35 sur Radio VL et on va s'écouter Joss Newman, Love Me Again. À tout de suite.
Radio VL
revient juste après ça.
Juste après ça. We'll be right back.
Et vous êtes toujours dans Réveil Média sur Radio VL. Bon réveil si vous nous écoutez ce matin, et ce que j'espère. On est toujours avec Marie, Camille, Caroline, Anthony et notre invitée Éléonore Bocara.
Réagissez et retrouvez toutes les infos, toutes les émissions sur le Facebook de Radio VL ainsi que sur Twitter.
Bonjour Éléonore.
Bonjour. Je suis au taquet, moi, le matin.
Elle réapparaît après toutes les musiques. On va passer à notre fameux qui a dit.
Réveil Média, le qui a dit.
Je rappelle le concept, je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias et vous allez devoir en deviner les auteurs, bien sûr des phrases Marie, oui, reprises de multiples fois dans les médias. Et oui.
Stéphanie.
Et on commence, concentration, qui a dit, je lis ma fiche, pour la télévision, je n'existe plus. Qui a dit cette phrase ?
Castaldi.
Non.
Courbet. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui pourraient le dire.
Non.
Pierre Charnier.
Mais alors là, c'est un acteur déjà. Un acteur qu'on a longtemps vu à la télévision et qui est vraiment absent depuis un petit moment. Là. Il était sur France Télévisions, il faisait une série.
Ah oui, je sais, Klein, Gérard
Klein. Gérard Klein, oh là là, oui. Un point pour Marie. Et oui,
en même temps,
c'est
il
ça.
A raison de le dire. Hein,
on l'entend plus. Et oui, l'acteur a accordé une interview à l'hebdomadaire Téléstar à l'occasion des rediffusions de l'Instit sur Gulli le mercredi soir. Je vais regarder, j'adorais ça, moi.
Non,
ouais.
Mais c'est un bon comédien.
L'occasion d'avoir des nouvelles du comédien incarnant Victor Novak dans la série L'Explique. J'ai juste l'impression d'être devenu virtuel pour la télévision. Je n'existe plus. Et oui, c'est dommage, c'est un très très bon acteur.
Ouais.
Et on l'invitera d'ailleurs dans les médias.
Les effets de mode dans les médias, c'est parfois un peu dur.
C'est
mais
un
il a
peu
tenu,
dur.
Ça a été long, hein, Steve.
Ouais, il a tenu. Qui a dit, Marie? Thierry Ardisson est un voyou qui s'est mal conduit. Qui a dit
Laurent
cette
Baffi.
Phrase? Non.
Son ex-femme.
Non, c'est une femme.
Alexandra Sublet.
C'est une femme qui a
non.
dit ça.
Non, c'est un homme.
C'est un animateur, Ruquier ?
Non, il est humoriste.
Alors, Laurent Gérard.
Ouh, ah ben voilà, tu reviens.
Allez, au taquet, bienvenue.
Hey, tu replaces, voilà. Tu regagnes ta place, là, pour l'instant. Mais attends, t'inquiète pas, les autres vont deviner après. Et oui, en promotion pour son premier rôle dramatique dans un téléfilm pour France 3, Laurent Gérard est revenu dans le Figaro TV sur sa mésentente avec l'animateur de Canal+. En 2010, déjà, l'imitateur affirmait « Il y a beaucoup de choses à changer à la télé, mais la première de la liste serait sans doute Thierry Ardisson. » Et oui,
oh là
ils
là
sont...
là, on s'en fout.
Et oui, ils sont toujours en train de se... Ouais, je suis pas d'accord non plus.
Une amitié sincère, bon. Ça fait plaisir.
Non, mais faut regarder le côté professionnel. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir des contentieux vis-à-vis de Thierry Ardisson.
C'est un peu dommage de le mettre en avant.
Dans l'aspect personnel, mais d'un point de vue professionnel, c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose de vraiment inédit à la télévision.
C'est vrai, Éléonore.
Continue, Nico.
Qui a dit « La culture à la téloche, c'est pas fastoche ». Qui a dit cette phrase, Éléonore?
Oh non, mais qui? Mais personne n'a pas
ah,
dit ça.
Si.
Quel mauvais jeu.
Ça, c'est un beau.
Vous pouvez entendre que nos spécialistes médias... Non, pas du tout. Non, c'est un... Allez, je vous aide
c'est
un petit peu. Allez, proposez des noms, Camille. Allez, faut que tu proposes des noms.
C'est un animateur.
Je donne un petit indice, quand même.
Un auteur, compositeur. Je donne des indices, normalement, quand vous proposez des noms. Un pianiste, animateur de télé. Il est juré à la Nouvelle Star, je peux pas en dire.
Ah, Ozon.
Manoukian,
et oui, André Manoukian, interviewé par le site.
Mais c'est le pro en plus.
Moi, je suis à fond dans Incroyable Talent là.
Et oui, interviewé par le site puremedia.com à l'occasion du lancement de la 10e saison de La Nouvelle Star sur D8. Mmh. André Manoukian a confié, entre autres, que faire de la culture à la télévision n'est pas facile. On continue.
Ouais, et c'est comme lui qui avait dit ça sent trop le savon, pas assez la foufoune. Donc en même temps, c'est le spécialiste des phrases choc.
Exactement.
Des phrases ringardes à voir.
Qui a dit ma chronique web au Grand Journal était absurde.
Ah oui,
alors
je
là,
sais qui c'est.
La réponse est dans la phrase.
Johan quelque chose. Johan quelque chose.
Oh là là.
Mouloudachou.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Web,
alors vous souvenez un peu de l'équipe du Grand Journal sous Michel Denisot. Il y avait une personne tout le temps qui faisait... il s'appelle Vincent.
Oh là là,
Vincent
Elbaz, Vincent Delerme,
Vincent G, Vincent
Gérard, Gébel,
non, Vincent Glad.
Il n'est pas connu.
Eh, personne, tout le monde
Vincent
à zéro.
Vincent Glad.
Eh oui, eh ben oui, dans une interview.
Ah d'accord,
dans une interview accordée à l'Express, l'ex-chroniqueur de web du Grand Journal de Canal+, Vincent Glad, est revenu sur son expérience au sein de l'émission. On continue, qui a dit « Les enfoirés, c'est devenu une opération commerciale ».
Eddie Mitchell.
Exactement. Et alors là, elle se venge. Éléonore, je t'explique, tous les invités étaient en train de la dégommer.
Enfin, deux invités.
Mais elle s'est briefée à mort, c'est tout. Elle s'est briefée avant.
Elle a dû lire toute la semaine la presse, notre petite mariée.
Non, pas plus que d'habitude.
Et oui, Eddie Mitchell.
Excuse-nous.
Dans un entretien accordé au Point, Eddie Mitchell s'en est pris une nouvelle fois aux enfoirés, un événement caritatif.
Mathie a répondu.
Exactement, devenu une opération commerciale, selon lui. Qui a dit On est un peu victime de l'amour de François Hollande pour le foot. Éléonore, qui a dit cette phrase? Alors, c'est quelqu'un d'extrêmement connu.
Alors,
qui est dans le monde du football.
Comment il s'appelle?
Pierre Ménès.
Bernard Laporte.
Non.
Toi, tu devrais savoir ça.
Non, mais.
Olas.
C'est non, mais c'est quelqu'un.
Gérard Houllier.
Qui est à peu près du même âge. Comment tu t'as dit?
Gérard Houllier.
Non, 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 non. Il a été joueur puis entraîneur.
Il est plutôt.
Non, plutôt âgé.
Pikachu. Âgé.
Jean-Pierre. Il s'appelle Guy. Il s'appelle Guy. Il s'appelle
Giroud.
Giroud. Et eh oui, un point pour Anthony. Et eh oui, interviewé.
Je te le dédicace.
Eh, heureusement que j'ai des indices. Hein. Interviewé par le magazine Télé Loisirs à l'occasion de la promotion d'un documentaire qui lui sera bientôt consacré sur Canal Plus Sport. Giroud a donné son avis concernant la taxe à 75% sur les hauts revenus que veut mettre en place le gouvernement. On continue. Qui a dit? Philippe Bouvard n'aime pas Cyril Hanouna. C'est son droit le plus strict. Mais quand on dit qu'il n'a pas de talent, alors là c'est totalement faux. Qui a dit cette phrase?
C'est pas Drucker.
Philippe Bouvard. Non. C'est quelqu'un que vous connaissez, mais alors.
Ariane Massenet.
Et vous êtes même proche de lui. Vous allez bientôt être très proche de lui.
Nicolas Nadeau.
Non. Non.
Belmar.
Pierre Belmar, exactement. Je vous rappelle qu'il viendra fin novembre.
La joie d'avoir gagné.
Et voilà, exactement.
Il en a parlé sur iTélé il y a deux jours, je crois.
Voilà. Alors là, c'était.
Mais non, fais pas genre, t'es au courant.
Non, l'émission média d'iTélé, on va en parler.
C'était face à Philippe Bouvard qui disait récemment ne trouver aucun talent à Cyril Hanouna. Pierre Belmar, lui-même ancien pensionnaire des Grosses Têtes, s'est fendu d'une réponse dans un entretien avec Le Figaro TV, mais également sur iTélé. C'est vrai, je l'ai vu. Qui a dit j'ai très très complexé étant petite? Qui a dit cette phrase? Non.
Jenny. C'est une fille.
Lady Gaga.
C'est une fille. Oui, ça peut être qu'une
fille.
Une
actrice, sûrement.
Miley Cyrus.
Une petite idée.
Des indices, Nico. Plutôt que...
Dalida.
Alors, c'est une animatrice d'M6.
Karine Le Marchand.
Non.
Christine Bollard.
Ma chérie. Comment
Cordula.
Elle a le droit, faut le dire en entier.
Sira Aguilera d'abord.
Ah oui.
On n'a pas entendu, mais
ah, en régie.
Ah non, c'est moi. Il n'y a pas photo.
Il n'écoute pas Yann.
C'est notre invité, on lui offre le point. Et oui, l'animatrice qui a fait son retour le 21 octobre dernier sur M6 avec une nouvelle salve d'épisodes de l'émission Les Reines du Shopping s'est confiée comme jamais aux caméras de Must Célébrité.
Quelle
le programme
émission.
Présenté par Sandrine Cormand le samedi. Elle a notamment parlé de son enfance qui a dit « Je n'ai plus envie de faire des fictions avec TF1 ».
La gaffe.
Oui. Eh ben, dis donc, Marie.
Elle est trop forte, Marie.
Waouh. Et oui, interviewé par le magazine TV Mag, Vincent Lagaffe est déçu du téléfilm Cher Radin, dans lequel il interprétait le rôle d'Alexis.
Rien que le titre déjà.
Il interprétait le rôle d'Alexis, un radin qui a horreur de dépenser un sou, figure phare de TF1, avec le radin pour le film aussi.
C'est bizarre que ça ait pas marché quand même.
Avec le juste prix, il annonce ne plus vouloir travailler sur des projets de fiction avec la chaîne. Et ben c'est formidable et on va passer de suite. On va passer à une chronique web, une actu web avec Camille. Alors avec toi Camille, on va commencer avec les réseaux sociaux privés qui débarquent sur la toile.
Oui exactement, il y a Waller en fait qui est un site qui permet à chaque utilisateur de construire en fait son propre tissu social en fait grâce à plusieurs sphères mais qui sont étanches les unes des autres.
Comment ça s'appelle?
C'est Waller.
T'écris ça comment?
C'est W-H-A-L-E-R.
D'accord.
Donc pas sûr de ma prononciation. L'anglais avec Nico, c'est difficile.
C'est pas moi qui lui apprends l'anglais, c'est sûr.
Et donc en fait cette étanchéité garantit en fait le caractère privé de toutes les sphères, donc c'est-à-dire qu'il y en a une privée au niveau de la famille, des professionnels, de la sphère professionnelle, etc. Et donc c'est une information qui a été qui est communiquée à un groupe, ne sera seulement visible en fait que par la sphère choisie, d'où le principe de Waller de réseauter en toute confiance avec une communication plus maîtrisée.
Mais si je peux me permettre, ça apporte pas forcément grand chose parce qu'ils te vendent ça à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau social, sauf qu'en fait tu peux avec les paramètres choisir la confidentialité, que ce soit professionnel, amical, donc il n'y a pas de vraie nouveauté.
Bah en l'occurrence là, le fondateur il a fait vraiment cette plateforme en fait pour juste pour en fait c'est plus face au problème du non-respect de la vie privée, etc.
C'était
pour que
ça.
Le marketing, parce que les gens
flippent. Ouais. Non, c'est parce que Facebook a vendu des infos à tout le monde. Et du coup,
vas-y, Camille.
Donc, voilà, donc, contrairement à Facebook, voilà, qui ne prend en compte que les amis, que ce soit des vrais amis ou seulement des collègues. Donc là, Waller, quant à lui, il a la capacité de permettre à l'utilisateur de communiquer comme dans la vie réelle, en fait, donc avec ses différentes relations, amis, collègues, famille, donc dans plusieurs sphères et avec toujours le même profil.
Et on continue, Camille, avec test grandeur nature pour l'introduction en bourse de Twitter.
Afin d'éviter des problèmes susceptibles de plomber l'introduction boursière du réseau social Twitter prévu pour le 7 novembre, la bourse de New York a procédé samedi 26 octobre à un test grandeur nature. Le New York Stock Exchange a testé principalement deux choses, voir si le système pourrait supporter en fait un trafic important et s'assurer que toutes les sociétés ayant placé des ordres recevront rapidement un message de confirmation de l'exécution de la transaction. Parce qu'on avait vu avec Facebook déjà que ça avait été très compliqué.
Ah oui, on s'en souvient, ça avait fait beaucoup de bruit.
Elle, Facebook, il avait choisi la Nasdaq et donc là, c'est la NYSE en l'occurrence que Twitter a choisi. Et donc, il y a de nombreux analystes qui ont expliqué que les perturbations qui avaient gâché l'introduction en bourse de Facebook sur le Nasdaq ont joué en fait en faveur du Big Board. Ouh là là là. C'est dur, tout l'anglais. Et donc, voilà, l'opération Twitter... Elle
oui, on a le même prof d'anglais, je crois.
Voilà, on a le même prof. Qui entend placer 70 millions d'actions à un prix compris entre 17 et 20 dollars pièce. Donc, ce sera la plus grosse introduction en bourse de l'année. C'est l'une des plus attendues.
Et on termine, Camille, avec Google qui prépare la production d'une montre intelligente. Ah ouais.
Exactement, le géant d'internet Google s'apprête à lancer une production de masse d'une montre interactive. Et donc l'appareil, il est pour l'instant au stade final de son développement et Google est en négociation avec des fournisseurs et de composants en Asie. Donc au sujet de sa production qui pourrait débuter donc dans les mois prochains. Et la montre, elle fonctionnerait avec le système d'exploitation mobile de Google, donc Android, et intégrerait son système d'assistante personnelle Google Now, un système activé par la voix comme le programme Siri d'Apple. Vous avez peut-être déjà vu, il y a des pubs là sur déjà celle de Samsung qui est sortie.
Ouais, c'est Samsung qui a lancé ça en premier.
Et ils essayent de copier parce que ça marche bien.
Vous pensez que ça va marcher vraiment, en montre comme ça, ou c'est un côté gadget?
D'ici tout, trop gadget.
On attendait les lunettes Google.
Oui, on en avait parlé dans cette émission. Attends, il y a la montre, bientôt il va y avoir le jean, on sait pas.
Je prends Paris d'ici 2 ou 3 ans, je pense que ça marche.
On en reparlera dans 3 ans alors. c'est merci beaucoup Camille en tout cas. On va s'écouter Birdie Dwing. Bon réveil dans. C'est bien, non? Je répète pas encore une fois. Ils ont compris les auditeurs. On se retrouve tout de suite en tout cas.
Radio VL
revient juste après ça.
Juste après ça.
réveil dans Réveil Média. On est toujours avec Caroline, Anthony, Marie, Camille et Éléonore Bocara, notre invitée de la semaine.
Réagissez et retrouvez toutes les infos, toutes les émissions sur le Facebook de Radio VL ainsi que sur Twitter.
Et voilà, c'est une matinale de joie, Éléonore.
Ah oui, tout à fait.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Pour passer au bilan média de la semaine avec Anthony. Hein. Alors avec toi Anto, cette semaine, on va commencer avec un coup de cœur. C'est Michel Drucker qui reçoit une anonyme dans Vivement Dimanche.
Et oui, exactement Nicolas, dimanche dernier France 2 diffusait Vivement Dimanche. Et donc Michel Drucker a reçu sur son fameux canapé rouge François Cluzet au cours de cette émission.
Oui.
Et il a également reçu une téléspectatrice venant de Nouméa.
Ça c'est sympa.
En Nouvelle-Calédonie, je tiens à préciser, hein, pour une courte géographie.
Ouais. Et donc, en regardant Marie.
Et donc cette téléspectatrice a déclaré à Michel Drucker: tous les dimanches je vous regarde à Nouméa avec toute ma famille, j'ai dit que mon rêve c'était de vous rencontrer pour mes 60 ans. Et on aurait pu penser Michel Drucker insensible à ses propos, tout simplement car en général les animateurs ont d'autres chats à fouetter et ne prennent pas la peine d'aller à la rencontre des téléspectateurs.
C'est pas forcément vrai, hein.
Tout simplement par choix. Et bien non, Michel Drucker nous montre encore une fois
ça
que
c'était sympa de l'installer dans le canapé, vraiment prendre le temps pour
non,
elle
chouette, hein.
Il y en a qui vont juste faire un petit clin d'œil.
Mais c'était chiant ou pas? Est-ce que t'as vu l'émission ou pas?
Oui, j'ai regardé un bout de l'émission,
est-ce que
juste son passage.
Est-ce qu'ils ont réussi
passage.
À faire quelque chose d'un peu vivant, intéressant, ou est-ce que c'était...
Elle a raconté, elle a un peu raconté sa vie, mais ce qui était intéressant, c'était le geste quand même, voilà. De l'accueillir, elle venait de loin, il a pris le temps de l'accueillir.
Anthony a peut-être quelque chose à nous dire.
Elle avait les larmes aux yeux.
Vas-y, Anto.
Et donc Michel Drucker nous montre encore une fois que pour lui, la chose la plus importante est d'aller au contact de son public et de lui faire plaisir, tout simplement, pour lui rendre la joie qu'il lui apporte. Et je trouve cette initiative vraiment élégante de sa part, surtout pour une téléspectatrice lambda venue de très très loin.
C'est quelqu'un de très bien, Michel Drucker. Ouais. J'ai eu l'occasion de le rencontrer dans le travail. C'est vraiment un mec qui est vraiment dans l'humain. Il fait pas ça pour l'image, pour la télé, pour faire genre je suis un mec bien.
Et t'es d'accord avec moi que c'est rare dans le métier.
Non, ça se fait, mais de manière aussi naturelle, c'est vraiment.
On en parlera hors antenne.
C'est vraiment spécial. Et donc, ainsi, elle a pu réaliser son rêve et venir s'asseoir sur le fameux canapé rouge. Et c'est la voix pleine d'émotions et les larmes au visage qu'elle a pu avoir l'occasion de parler à son idole. Nul doute qu'elle en gardera effectivement un très grand souvenir. Et enfin, Michel Drucker nous a rappelé à tous, tout simplement, que la télévision est avant tout un partage et un échange, peu importe où l'on se trouve sur le globe. Et si tous les animateurs pourraient agir comme lui, nul doute que la télévision s'en porterait bien mieux.
Et bah, exactement, Anto, c'est un très beau coup de cœur. On va avec un coup de gueule maintenant, ce qui va être vénère, Anthony, là. Hein. C'est la solitude de Pierre Tchernia, abandonné de tous dans une maison de retraite. Et c'est mon coup de gueule aussi de la semaine.
Ah oui, moi je trouve ça juste scandaleux parce que Pierre Tchernia, âgé de bientôt 86 ans, est en train de terminer ses jours dans une maison de retraite de la région parisienne.
Mais qu'est-ce qui se passe? Il a plus de famille?
Et alors, en fait.
Mais comme beaucoup de gens,
on va écouter Anthony, on en parlera après.
Et donc en fait, Pierre Tchernia, après avoir subi une intervention à la hanche, ne peut plus se mouvoir qu'en chaise roulante. Et donc, il a été interviewé par un magazine ici Paris qui raconte que Pierre Tchernia ne reçoit que très peu de visites désormais et il est seul dans sa chambre et plus personne ne vient le voir, ce qui est complètement incompréhensible pour un personnage comme lui qui a apporté énormément à la télévision. Et pour moi, c'est vraiment un grand manque de respect d'oublier ce grand monsieur.
On va le voir sinon dimanche prochain.
Et surtout, moi, ce qui me choque, c'est qu'aucun ancien collègue ou ami qu'il a pu avoir avec son passé télévisuel ne se déplace
bien évidemment voir. Comme disait Caroline, il y a de nombreuses personnes âgées qui sont là. Bon, Pierre
Tchernia,
alors non, moi ce que, non, moi je suis d'accord avec Anto parce que malheureusement, et c'est la vie,
hein, Pierre
Tchernia a un certain âge. Le jour où Pierre Tchernia, admettons, ne sera plus là, ils vont tous dire c'était un grand monsieur, etc. Pourquoi ne pas venir le voir en maison de retraite maintenant, lui proposer quelques projets? C'est ça, moi aussi.
Non, mais parce qu'il s'en fout, mais qu'est-ce tu veux lui proposer comme projet s'il est en maison de retraite?
Non, mais
pas bouger.
Au moins par amitié.
C'est le geste. C'est
au
le
moins,
geste.
Voilà, c'est
le
geste.
Personnes
c'est le
geste personnel.
Le côtoyer. Voilà. Comme Arthur qui l'a gentiment accueilli dans son émission.
Tu sais qu'il y a un mec qui s'est pendu dans son appartement. Ils ont vendu l'appart.
Non, mais
il s'est pendu 8 ans.
On va pas refaire le monde, Caroline. On va pas refaire le monde. On va pas refaire le monde.
Si au moins ça peut mettre en lumière. Si au moins ça peut mettre en lumière la détresse que peuvent ressentir un grand nombre de personnes parce qu'ils ne sont pas entourés.
C'est ce message-là.
Ah oui, mais je suis d'accord.
Bah oui, c'est ce que je dis, il y a beaucoup de personnes âgées qui
mais
le
sont.
Mais
on est d'accord, Nico.
Voilà. Ah ben, c'est mon coup de gueule aussi, donc ça m'énerve.
Et je voudrais ajouter qu'en fait, dans son livre Magic Ciné, il avait écrit: un jour vient où on n'a plus besoin ni envie de vous, on ne plaît plus. J'ai eu bien de la chance depuis 1949 et malheureusement c'est triste de constater qu'il avait raison et que désormais il y a plus qu'un seul de ses fils qui vient encore lui rendre visite et qui l'amène en vacances.
Après ça c'est des histoires de famille que tout le monde peut rencontrer, donc, ça a rien à faire.
Donc voilà, moi je trouve ça vraiment dommage et j'espère que cette interview justement amènera les gens à se mobiliser pour aller le voir.
Exactement, et bah bravo Anto, en tout cas c'est vraiment mon coup de gueule de la semaine. Et ben Réveil Média c'est terminé. Merci à vous quatre d'y avoir participé, à vous et à toi Éléonore Bocara d'être venue.
Merci à vous.
Et oui, vous êtes de plus en plus nombreux. Putain, mais je bug aujourd'hui. C'est... Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous remercie de votre fidélité. C'est parce que c'était mon coup de gueule. C'est pour ça. Un clin d'œil également à Laurine. Oui, mais à Laurine Molina et à Manon Chemel qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et à Yann en régie, le réalisateur et producteur de l'émission. Voilà, comme.
Merci Yann.
Tu vas lui dire toutes les semaines. C'est ça.
Toutes les semaines.
N'hésitez pas à nous écrire sur Twitter hashtag Radio VL ou directement sur notre Twitter Réveil Média et à diffuser autour de vous les replays de... Mais oui, je vais le dire, mais laisse-moi terminer ma phrase de nos émissions via notre page Réveil Média sur le site de radiovl.fr et notre application iPhone sur, voilà, exactement, hein, téléchargez-la tous en masse et surtout mobilisez pour la télécharger. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Réveil Média. Alors en attendant, portez-vous bien, ciao, bye bye.
Salut.
Au revoir, Éléonore.
Tonight, ever since this morning, your kiss is on my skin. What's your game tonight? Will you talk to me? You know I need you to make it real.
Écoutez et réécoutez vos émissions favorites sur radiovl.fr, rubrique replay.